Et bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Aude Radio. Voilà, il y a la bonne ambiance dans le C-Town en même temps qu'il pilote l'avion aujourd'hui. Voilà, il y a la bonne humeur et ça, c'est tant mieux. Voilà, donc bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur l'antenne d'Aude Radio, Aude Radio, la radio des Hautes-Garonne. Et voilà, on est ravis de vous retrouver comme chaque jour du lundi au vendredi pour notre journal d'information locale et culturelle. En direct à midi, rediffusé à 15h à 18h avant d'annoncer. Annoncer le sommaire, bien sûr, on rappellera comme chaque jour, voilà, c'est important de le faire. Comment nous suivre? Bien, la bande FM 91.3 depuis le 10 juillet 1997. Vous pouvez nous suivre également par le site audoradio.fr, voilà, qui vous permet de venir réentendre, voire télécharger toutes nos émissions. C'est un service gratuit, donc n'hésitez pas, c'est très facile d'accès, très intuitif, hein, en deux ou trois clics. Voilà, on peut revenir entendre l'émission et même la télécharger, donc ça c'est plutôt sympa si on veut aller écouter tranquillement chez soi. Et bien sûr, le site vous donne plein d'infos sur la vie de la radio, nos contacts, etc. Et si vous êtes en métropole bordelaise, équipé d'un poste récepteur de radio numérique terrestre, DAB+, acronyme en anglais, voilà, ben vous pouvez également nous suivre par ce biais-là. Allez, tout de suite, le sommaire de ce journal en ce vendredi 11 octobre. Voilà, on va retrouver Lily pour la présentation, l'isation des brèves. On est ravis de recevoir Jean-Paul Chaumet, membre du collectif Parole de femmes en migration. Et parmi les événements à suivre, eh bien, les rendez-vous des 24 et 25 octobre au musée d'Aquitaine à Bordeaux, mais on en parlera avec notre invité du jour. Pour la partie musicale, beaucoup d'événements et là il y aura demain les entractes solidaires. Voilà, demain samedi 12 octobre au Garage Moderne. Alors il y a toute une action autour de l'alimentation dans le cadre du Festival Bon. Et là, les entractes solidaires, eh bien, ça permet d'avoir des moments un petit peu légers, entre guillemets. Mais c'est surtout un soutien à l'association Les Gratuits Gironde Solidarité, voilà, qui sont sur le terrain pour des maraudes, pour les sans domicile fixe et qui neigent, qui ventent. Voilà, ils sont là tous les lundis, tous les dimanches soirs, voilà, à Bordeaux. Et le vendredi, voilà, ils sont sur une distribution également solidaire. Donc voilà, ça va être un bel événement. Il y aura du stand-up. Voilà, puis les bénéficiaires sont invités pour passer un bon moment, on espère. Et puis le but, c'est quand même d'avoir un petit peu de soutien avec quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Mais donne qui veut, donne qui peut, il n'y a pas de participation obligée. Et parmi les artistes qui vont s'y produire, eh bien, le groupe JSG, voilà, c'est le Jérôme Solaire Group, dont on écoutera un extrait. Et comme on est vendredi, eh bien, on retrouvera, comme tous les vendredis, donc même si c'est tous les 15 jours avec un système de rediffusion, on retrouvera Maître Paul Cesseau pour ce magazine juridique et social. Voilà, et là, il va réaliser un retour sur le magazine, sur les déclarations du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, relative à l'état de droit. Voilà pour le sujet du jour et pour tout de suite ouvrir notre journal sur Aude Radio en ce vendredi 11 octobre. C'est donc Lily qui vient nous présenter quelques brèves d'infos. Bonjour Lily.
Bonjour Joël, bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi 11 octobre, l'édition 2024 des Erasmus Days. Du 14 au 19 octobre, les Erasmus Days seront une nouvelle fois l'occasion de célébrer Erasmus+, programme qui favorise la mobilité et la coopération européenne et internationale. La Chambre de métiers de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine se mobilise en organisant nombre d'événements au sein de plusieurs de ses centres CMA formation afin de mettre en lumière les nombreuses opportunités offertes par ce dispositif. Ils sont chaque année plus nombreux à bénéficier du programme Erasmus+. Dans les centres CMA formation de Nouvelle-Aquitaine, l'année scolaire passée a battu tous les records. 432 jeunes ont profité d'une mobilité européenne, contre 325 l'année précédente. Depuis son accréditation en 2021, la CMA Nouvelle-Aquitaine bénéficie chaque année d'une subvention accordée par l'agence Erasmus+. Cette année encore, la qualité de la mise en œuvre des projets de mobilité a permis à CMA Formation en Nouvelle-Aquitaine d'obtenir le budget le plus important de tous les réseaux des CMA. En Nouvelle-Aquitaine, CMA Formation, Belima, Isfora et INSAV proposeront une exposition photo des expériences mobilité et une présentation des prochaines mobilités sur les deux sites. On continue. La région Nouvelle-Aquitaine donne le coup d'envoi d'une nouvelle édition du mois de la transmission reprise. Un mois pour se rencontrer, s'informer et préparer l'avenir des entreprises locales. Cette nouvelle édition, lancée par la région, propose de nombreux événements pour sensibiliser et informer les entrepreneurs et futurs repreneurs sur les opportunités de transmission et les aides existantes. De fin octobre à début décembre, les acteurs économiques de la région pourront participer à l'une des 80 manifestations proposées dans l'ensemble du territoire néo-aquitain. Une programmation riche et diversifiée à ne pas manquer pour oser se lancer dans la transmission ou reprise d'entreprise. Pour la 7e année consécutive, Mois de la Transmission, organisé par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, la Chambre de Métiers de l'Artisanat, la Chambre d'Agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine et les autres partenaires, est devenu le rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent céder ou reprendre une entreprise en Nouvelle-Aquitaine. Pour retrouver toute la programmation, rendez-vous sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine. Afin d'effectuer une recherche rapide, le site dispose d'un moteur de recherche multicritère qui permet de trouver les événements les plus appropriés à son projet et son profil. Et pour finir, tous aux couleurs d'Octobre Rose. La ville de Lormont et ses partenaires contre le cancer du sein organisent de nombreuses animations ce samedi de 14h à 18h. Au programme, accueil et distribution de petits rubans roses par les habitants relais, atelier bien-être et beauté, sophrologie avec Sylvia Séguir et socio-esthétique avec Audrey Pouplier. Atelier photo ma photo en rose, atelier de sensibilisation au dépistage et à l'autopalpation sur mannequin par des professionnels de santé du territoire, témoignages et échanges autour du dépistage par des habitantes qui ont pu se faire soigner après un dépistage précoce, prise de rendez-vous pour dépistage en collaboration avec le centre d'imagerie Imagir, mais également des activités physiques, artistiques et démonstrations, décoration, confection de coussins cœur, de badges avec l'espace textile et les habitants relais, une démonstration de gymnastique de 15h à 15h30 avec l'ASGVL, de la danse Zumba avec ruban, ainsi qu'un atelier de prévention animé par la CPAM. Il y aura également des stands rafraîchissement et friandises. Rendez-vous ce samedi 12 octobre de 14h à 18h au pôle Brassens-Camus, rue Henri Dunant à Lormont. L'événement est gratuit et ouvert à tous.
Allez, merci Lily pour ces quelques brèves d'infos. On est toujours en direct sur Onde Radio. C'est notre journal en ce vendredi 11 octobre. Et on va sans plus tarder accueillir comme il se doit notre invité du jour, Jean-Paul Chomeil. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Voilà, et puis moi je vous remercie parce que c'est vrai que comme je vous disais hier, il y avait Joanne du Rami. Voilà, qui m'a remis ce beau programme de Parole de Femmes en migration qui va se dérouler les 24 et 25 octobre. Et quand il vous a contacté, vous avez répondu présent de suite, donc merci beaucoup. Déjà, voyons, on remercie d'entrée. Alors, Jean-Paul, on va en parler bien sûr de ces deux jours au musée d'Aquitaine, les 24 et 25 octobre. Mais là, peut-être dire quelques mots sur ce collectif Parole de Femmes en migration. Alors, évidemment, j'ai la liste exhaustive des associations, mais sans me faire un historique exhaustif complet dans les grandes lignes, qui sont membres de ce collectif et bien sûr. On va y venir, les missions, pourquoi elle a été créée. Alors, beaucoup d'associations, des citoyens qui se retrouvent.
Oui, voilà, c'est un collectif qui s'est constitué récemment, en fait, il y a que quelques mois, qui rassemble des personnes qui sont intéressées par le sujet. Au cours du travail de préparation, on a pris contact avec des associations, avec des universitaires ou des chercheurs, chercheuses plutôt d'ailleurs, qui travaillent sur ce sujet-là, des femmes en migration. On a le titre, donc, c'est bien Parole de Femmes en migration, et c'est au pluriel, voilà. Donc là, moi, je suis là, donc je remercie effectivement à nouveau votre radio de me recevoir. Donc en fait, on est deux à travailler comme ça. Notre personne, c'est Pierre Robin. Et nous sommes retraités, nous avons un peu de temps devant nous, donc on sert un peu de service après-vente de notre projet. Mais en réalité, le collectif est beaucoup plus largement constitué et en très grande partie par des femmes, sauf que beaucoup d'entre elles sont plus jeunes que nous et elles travaillent, donc c'est plus elles ont des vies aussi en dehors, donc c'est plus facile pour nous de venir en tant qu'homme présenter ce colloque qui va se dérouler uniquement à partir du point de vue des migrations faites par les femmes, voilà.
Alors c'est un premier événement, si j'ai bien compris, parce que toutes les associations, on ne va pas les citer, c'est pas qu'on ne veuille pas, hein.
Oui.
Même sinon de radio, même la Clé des Ondes, c'est pas une radio concurrente, hein. On est amis, oui. On peut avoir des programmes communs, et puis après il y a des associations, là je parlais de, quand on a échangé avec Johan du Rami, que ce soit Alice, Lassie, etc. Voilà, ce sont toutes des associations impliquées, militantes.
Oui.
Ça a été compliqué de monter un collectif. Parce que là, c'est des enjeux sociétaux forts qui plus est. Mais comme chacun a ses activités, je présume que même si tout le monde ne peut pas être toujours présent, quand il y a des réunions, etc., c'est quand même un mouvement. Et là, c'est si je ne me trompe pas, hein, vous me reprenez, c'est le premier événement au nom du collectif, hein, parce que tout le monde est très engagé.
Oui.
Donc
oui.
Là, pour un premier événement, alors le musée d'Aquitaine, alors ça, c'est un lieu bien identifié. Dans le centre
de Bordeaux.
Alors, je sais que certaines associations organisent. J'ai passé pas mal d'événements là-bas. Oui. Donc, pour vous, c'était l'évidence d'avoir un moment comme cela, parce que là, il y a un riche programme également. Donc, c'est bien à un moment donné d'avoir un événement fort, et celui-ci en particulier.
Oui, donc, effectivement, le musée d'Aquitaine va nous accueillir. C'est sûr que sans leur collaboration, ça aurait été beaucoup plus difficile parce qu'ils vont nous accueillir et puis parce que quand on fait des réunions, on les fait souvent là-bas. Et on avait travaillé, certains nombres d'entre nous, pas tous, on avait travaillé déjà sur un projet un peu, sur un projet d'un colloque sur les Gilets jaunes. Donc, ce ne sont pas les mêmes, c'est pas du tout le même collectif. Ça s'est reconstitué à partir d'une préoccupation qui nous est apparu à un moment donné, parce que par ailleurs, avec le cinéma Utopia, on participe à des rencontres Espace Marx Utopia, et dans lesquelles on est plusieurs à organiser des journées où on prend comme sujet celui qu'on veut. Et on a pris, nous, des sujets qui concernaient le cinéma de Syrie, après de l'Ukraine post-invasion russe, et après l'Iran l'année dernière. Et on s'est aperçu que chaque fois qu'on a eu des contacts avec ces groupes, ces communautés, ces collectifs, c'était des femmes avec qui on avait le contact. Et à partir de là, un jour, on s'est dit, mais finalement, l'émigration, c'est pas que les hommes qui migrent, c'est aussi des femmes. Et on s'est aperçu, c'est ce que l'on met d'ailleurs dans la présentation de notre flyer, c'est qu'aujourd'hui, la moitié des migrants sont des migrantes. Et souvent, on parle en général de la migration, peut-être sous l'angle plutôt des hommes, alors qu'on s'aperçoit, quand on creuse la question, avec toutes les organisations, que les migrations faites par des femmes, c'est très spécifique, très différent des conditions réalisées pour les hommes. Voilà, donc on est parti de là. Et puis on a creusé, après on s'est aperçu que il y avait des associations qui étaient très intéressées, mais qui faisaient leur travail au jour le jour.
Et oui, elles ont propres objectifs.
Voilà, objectifs. Et puis le fait de faire de rassembler tout le monde, je pense qu'à un moment donné, ça a bien pris pour tout le monde que l'on puisse comme ça se brancher uniquement.
Et d'avoir des temps, parce que c'est vrai que moi je vous écoute avec attention, parce que nous on avait, alors je vais pas reciter le Rami, histoire de prendre toujours une association, voilà, et puis ne pas parler des autres, mais on a eu des formations, on a participé à des collectes justement sur les parcours bien singuliers,
oui.
Républicains, et là je vous rejoins tout à fait. En même temps, c'est l'histoire, souvent effectivement c'est les hommes, quand on voit par rapport au Portugal pour fuir Salazar, voilà. Et c'est vrai que là, on avait tout étudié ça, parce qu'on ne connaît pas tout. On n'est pas tous des érudits comme vous, du coup, en
exagère.
Histoire. Si, si, mais enfin, je veux dire, voilà, je ne rentre pas dans la vie privée. Voilà, donc fort de ce constat, donc deux jours avec chaque jour, donc le jeudi 24, vendredi 25, et chaque jour, il va y avoir une thématique avec des angles bien définis, parce qu'il fallait faire des choix aussi, hein, parce que je présume qu'entre les parcours, après, il y a du réseau. Là, vous allez nous le dire, il peut y avoir des films, des tables rondes, donc c'est vraiment des moments d'échanges divers et variés. Alors, peut-être commencer, si vous voulez bien, après, je ne sais pas si vous pourrez me donner le détail absolu, parce qu'il y a un timing.
Je vais essayer d'être
aussi. Bref, parcours de femmes migrantes, témoignages et engagements. Ça, c'est la thématique, j'allais dire, du jeudi 24 octobre. Donc, soit ben, vous prenez quelques exemples. Après, on rappellera sur les outils de communication comment avoir tout le détail du programme.
Oui.
Donc, le jeudi 24.
Oui, alors en fait, on a organisé ces deux journées à partir de trois pôles importants. Le premier, c'est ce qu'on a recherché, ce qui est extrêmement assez compliqué à réaliser, c'est d'obtenir des témoignages de femmes qui ont fait, des femmes qui sont parties en exil, parce que pour différentes raisons, c'est pas simple pour elles de parler, parce que quelquefois, c'est des souvenirs souvent extrêmement...
Qui restent encore bien ancrés,
voilà,
donc c'est très en parler.
Donc parler, c'est pas
bien
simple.
Sûr.
Le faire en public ou même on a fait des enregistrements.
C'est encore moins simple.
C'est encore plus... Voilà.
Tout à fait, on est d'accord.
Même, oui. Alors on fait des entretiens, on les traduit. Quelquefois, il y a des problèmes où elles préfèrent rester un peu dans l'anonymat, etc. Voilà. Donc on a tout un premier pôle sur ces témoignages. Alors pour dire, il y a des femmes qui viennent d'Iran, kurdes, chiliennes, l'Argentine... je peux citer l'Ukraine, etc. Voilà, on a réussi à avoir ce contact et on continuera à le faire par la suite dans un ouvrage qu'on compte publier.
Où ça, c'est un début.
Ça, c'est un prolongement. Voilà.
Voilà, parce que là, c'est vrai que quand vous citez certains pays, chacun a une histoire, parce qu'il y a la grande histoire et il y a son propre parcours de vie. Ouais. Par exemple, quand vous reparlez de l'Ukraine, voilà, on en parle moins. Hein. J'ai pas si vous avez vu
aujourd'hui
dans les médias.
Oui.
Après, si on parle d'autres pays qui semblent plus lointains, l'Argentine, mais chaque fois, ce sont des parcours, puis on imagine tout un parcours. Voilà, pour des raisons diverses, on peut suivre, une dictature, ou ce qui peut ressembler, même s'il y a des noms différents.
Dans ces témoignages-là, ce qu'on a compris, parce que dans des revues qui travaillent sur ces questions, avec des personnes engagées, soit chercheuses, qui font aussi de la pratique, etc., souvent est venue l'idée que les femmes qui partent sont déjà, d'une certaine façon, en exil dans leur propre pays.
C'est ce qui explique s'ils les poussent à venir dans un pays soit moins hostile ou accueillant de préférence.
Voilà, c'est pas simplement pour chercher du travail, même si c'est évidemment un élément décisif, mais c'est aussi pour des questions de mode de vie, de façon d'exercer leur profession... les relations qu'elles peuvent avoir avec le reste de la société ou les hommes, par moment, c'est aussi ça qui les fait partir, plus en même temps que les hommes, mais pour des raisons aussi plus spécifiquement liées à leur condition de femme. La même chose, cette différenciation se reproduit aussi pendant le voyage, parce qu'elles ont comme les autres souvent... Alors, il y en a qui arrivent par des moyens un peu normaux, mais beaucoup viennent en ayant toutes les épreuves qu'on connaît, on voit, dont on nous parle, traverser des déserts, être passé par des pays comme la Libye, risquer sa vie, etc. Donc elles ont là des vécus de parcours qui sont différents de ceux des hommes. Et après, à leur arrivée, elles cherchent à être prises en charge. Et là encore, il y a peut-être un certain nombre de stéréotypes qu'il faut essayer de soulever pour faire comprendre un peu quelle est la situation de ces personnes quand elles sont arrivées en France. Voilà. Donc il y a plein d'associations. Alors deuxième temps, c'est les personnes, des chercheurs ou des universitaires qui travaillent depuis longtemps sur ces sujets-là. Et qui vont venir témoigner en essayant un peu de généraliser ce que l'on peut apprendre par l'intermédiaire des témoignages, une vision plus générale. Et puis, on aura trois tables rondes avec toutes les... je pense qu'on en a trouvé quand même beaucoup qui ont accepté de venir présenter leur propre activité dans ce domaine-là, c'est-à-dire travail... violence faite aux femmes, parce que c'est quand même quelque chose qui est spécifique à ce qu'elles vivent, l'accueil, le parcours de combattant, etc. Voilà, c'est trois temps différents qui sont mélangés, qui sont Aborder différemment, les trois tables rondes ne sont pas forcément le même jour, il y a le jeudi, après...
Oui, on peut assister à chacune, voilà. C'est-à-dire que là, il y a tout un programme, pas qu'on va prendre le programme à la carte, mais que l'on peut, parce que là, c'est vrai que c'est très difficile de tout présenter. Ça, on le rappellera, il y a des programmes qui ont été diffusés, parce que là, il va nous rester 5-6 minutes, mais ça vous laisse encore le temps, Jean-Paul Chemin, de pouvoir vous exprimer. Donc voilà, le premier jour autour... les thématiques évoquées, le deuxième jour parcours de femmes migrantes avec les violences dont vous parlez faites aux femmes et pas qu'aux femmes d'ailleurs, ça arrive aussi, mais beaucoup bien sûr, voilà, politique d'accueil et d'intégration, et là c'est vraiment décliné avec différents temps forts, comme on l'expliquait, ça peut être une table ronde des diffusions, donc il y aura même des diffusions audio de la clé des ondes, donc je pense qu'il va y avoir à la fois de l'émotion.
Oui.
Ça s'adresse à qui d'ailleurs les deux jours, à toute personne, vous allez me dire, qui est intéressée par ces causes qui devraient être universelles, c'est les droits humains, c'est la citoyenneté, mais est-ce qu'il y a, en même temps je connais la réponse, il n'y aura pas forcément de public particulier, c'est le monde, ça peut être des étudiants qui travaillent, là il y a des chercheurs, il y a des responsables associatifs, il y a vraiment dans l'origine des personnes intervenantes, mais qui mènent le même combat.
Vous avez raison de me demander de préciser ça, parce qu'effectivement, ce sont deux journées qui sont ouvertes au public. Et au public.
Au grand public, c'est-à-dire que tout le monde peut venir.
Voilà, notre intention, c'était pas simplement de faire parler des spécialistes, mais il va y en avoir. Mais on a bien spécifié à chaque fois que c'était ouvert à un grand public pour ouvrir un peu la réflexion sur ces données-là générales de l'immigration, qui sont aujourd'hui des sujets, quand on voit tous les jours, on entend les préoccupations des différents ministres de continuer à réprimer les mouvements migratoires. Et en plus, parmi ces mouvements migratoires, celui des femmes qui était très peu médiatisé. Donc en général, c'était migration en général, mais migration faite par des femmes, ça a des conditions particulières. Donc on a voulu faire appel à ce grand public au centre général. Donc, il n'y a pas d'inscription à faire. Il n'y a pas de...
Voilà, c'est un accès libre. Tout le monde... Là, il y a un programme, bien sûr. Si, par exemple, si on n'est pas disponible sur les deux jours...
On vient quand on veut.
On peut être un citoyen. Et puis voilà, puis c'est de l'information, la sensibilisation. Certes, des érudits, des chercheurs, mais ça permet d'être sensibilisé peut-être à des sujets peut-être moins connus, des pans de l'histoire qui sont des radités.
Oui. Avec eux, c'est aussi ça qui peut-être les a intéressés, c'est qu'ils vont s'adresser, non pas un public de spécialistes, même si ils ont invité, là on a un certain nombre d'universitaires qui vont inviter leurs étudiants à venir, etc.
Bien sûr.
Mais en fait, on leur propose de s'adresser à un public très général, qui est juste intéressé par ces questions-là. Donc, c'est la même chose pour les associations qui travaillent souvent chacune sur leur propre secteur, ce qui est qu'elles sont un peu débandées tout le temps. Et là, elles vont confronter leur expérience commune. Alors, c'est vrai qu'on parle autant de l'accueil, par exemple, les violences qu'ont subies des femmes, la façon dont elles sont prises en charge, parce que souvent, on pense que ce sont... des personnes qui n'ont pas de qualification professionnelle, donc on leur propose des emplois sans qualification, alors qu'en réalité, il y a autant de, si ce n'est davantage aujourd'hui, de femmes qui partent avec des qualifications importantes et qui, quand elles arrivent ici, elles sont déçues, on va leur proposer de faire le balayage, ce qui n'est pas, c'est pas son métier, mais bon, par rapport...
Bien sûr. Nous, on a reçu des stagiaires qui ont fui leur pays respectif, journalistes dans leur pays, puis voilà, on sait que tout ce qui est média dans certains pays, il faut qu'il y ait une seule voix unanime. Alors, comme il va nous rester juste quelques instants, Jean-Paul, ça sur le programme, je rappelle, on va le diffuser, on va partager, et là, juste en deux mots, parce que c'est vrai que là, ça va être une richesse d'échange, de partage. Et là, vous disiez, après la suite, ça pourrait peut-être un ouvrage, si j'ai bien compris, parce qu'il y a tellement de moyens. Là, il y aura des documents sonores, des films. Donc, suite, ça pourrait être ça, formaliser, entre guillemets, le terme.
Oui, tout à fait. Au cours de nos deux jours, il y aura la présentation de deux films qui sont faits par, par un ethnologue que l'on a invité. Deux films qui seront présentés. On aura aussi, alors quelquefois, des personnes qui seront là, en, pas direct, mais en vidéo, quand elles ne peuvent pas venir. Et effectivement, là, on a travaillé avec La Clé des Ondes, mais on pourrait travailler effectivement avec, avec vous. Ou...
Non, mais c'est les confrères, ouais. Donc il peut y avoir, voilà, même après des.
Qui vont enregistrer, tout à et fait, ça, oui, sera, oui. Ça sera ensuite diffusé sur leur radio.
Sur leur propre réseau, tout
alors,
à fait.
Pour, oui, c'est, oui, vrai que le prolongement, c'est. Comme on l'avait fait aussi, on avait fait un colloque sur les Gilets jaunes, on va publier les déclarations, les études que ces personnes qu'on a invitées voudront bien nous transmettre. Donc soit ceux qui participent au colloque, soit des personnes qui, pour X raisons, ne veulent pas venir témoigner en public ou qui, pour qui c'est très difficile, mais on le feront peut-être plus facilement par écrit, et on se propose... Donc, de publier ça sous la forme d'un ouvrage. Pierre Robin, que j'ai cité, avec qui on est des organisateurs, nous sommes aussi à la tête d'une petite maison d'édition, pas amateur, mais pas professionnelle, et on va publier ces actes de ce colloque, en quelque sorte. Et puis, on a un projet un peu plus lointain, c'est celui de faire un film plus important sur le traitement de ces questions-là. Voilà.
Très bien, mais écoutez, Jean-Paul, vous n'aurez pas forcément pu tout dire aujourd'hui. J'espère, oui, qu'un minimum a été dit, mais voilà, on est là. C'est pour la suite. Voilà, s'il y a un ouvrage qui est créé, il ne faudra pas hésiter. Voilà. Là, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà précisé. Au sein de ce collectif Parole de Femmes en Migration, il y a beaucoup d'associations avec qui on a déjà des liens. C'est pour ça que je m'en trouve parfaitement. Hein. Chacun, voilà, on a nos missions, nos objectifs, des agendas bien remplis. Donc, voilà, d'avoir des moments comme cela où des passerelles où on peut se croiser les uns les autres, et puis après, bon, voilà, il y aura la suite. En tout cas, merci pour ces quelques minutes, et on rappelle, voilà, les 24 et 25 octobre, on va repartager, donc jeudi, vendredi,
au Musée d'Aquitaine.
Au Musée d'Aquitaine à Bordeaux, que, voilà, c'est dans le centre, c'est pas très compliqué.
C'est gratuit.
Tous les moyens d'accès pour y arriver avec tous les transports, c'est en libre accès, et si on voit le programme complet, détaillé, voilà, avec les horaires, les invités, les intervenants, on parle de femmes en migration. On va repartager ça sur les réseaux. Merci beaucoup. Et puis, voilà, sur d'autres événements, on est là, modestement. Mais,
écoutez, je vous remercie beaucoup. On fait cette première intervention. On va essayer de travailler la question des rapports avec les réseaux et avec les journalistes pour arriver à faire connaître un peu notre sujet. Donc, vous êtes les premiers à nous avoir reçus. Donc je vous remercie au nom de tout notre collectif, et j'espère qu'on pourra à l'occasion de se revoir.
Avec plaisir. En tout cas, un grand merci à vous, Jean-Paul Chomeil. Allez, on va remercier bien sûr Ethan qui pilote la régie aujourd'hui, mais je remercie Nicolas.
Oui, merci aussi.
Voilà, qui n'est pas très loin, bien sûr. On permet aux jeunes, voire aux moins jeunes, de pouvoir s'expérimenter à la radio, mais toujours accompagner, hein, c'est important. Voilà, donc juste quelques infos. On va peut-être un petit peu déborder, mais c'est pas grave, c'est l'actualité. On priorise bien sûr, qui plus est, les invités en direct. Là, notez bien que lundi, on aura Alain Duleux-Buret, c'est le président de l'association L'Autre Rive, nos voisins amis du parc du Loret. Voilà, il viendra nous parler du nouveau numéro de l'Écho des Collines, celui, eh bien, du mois d'octobre. Hein, ça tombe sous le sens. Dans le cadre d'Objectif Emploi, à 12h30, comme tous les lundis, eh bien, on va parler emploi. Emploi, bien sûr, hein, c'est tout le sens déjà du nom du magazine et de nos valeurs, de nos convictions. Voilà, Jessica Sanchez, elle est chargée d'emploi et compétences, référente handicap, service ressources humaines en charge du forum dédié au métier de la petite enfance à Lormont. Il va y avoir de belles pistes de l'emploi. Ce sera le 18 octobre. Tout le monde est bienvenu. C'est organisé par le CIVU, qui est une mutualisation CIVU petite enfance entre les villes de Senon et Lormont. Et Gaëlle Cluérec, elle est coordinatrice pédagogique, et elle fait partie des organisateurs, bien sûr, de ce forum. Donc, beaucoup d'infos sur ce qui concerne ces métiers de la petite enfance, avec en ligne de mire, bien sûr, cette journée du 18 octobre où tout le monde sera le bienvenu. Allez, merci. Je crois qu'on a remercié nos invités. Allez, dans quelques instants, invités puis techniciens à l'équipe. Allez, dans quelques instants, le magazine juridique et social Défendez-vous, présenté et réalisé par Maître Paul Cesseau. Le temps d'une transition musicale avec Jérôme Solaire, groupe, souvent c'est l'acronyme qui est cité pour le groupe GHG, en rappelant que le groupe va se produire sur les entractes solidaires, 5e édition, demain samedi 12 octobre, ce sera au Garage Moderne à Bordeaux, et c'est toute une journée l'après-midi dans le cadre du festival Bon, et il y aura en soirée, vous pourrez manger sur place, voilà, il y a une participation consciente, c'est-à-dire vraiment donne qui veut, donne qui peut, il y aura du stand-up, voilà, beaucoup d'intervenants sur le côté culturel et un petit peu de musique, et tout cela en soutien au Gratuit Solidarité Gironde, voilà, qui sont souvent sur le terrain par tous les temps, voilà, pour être au plus près des sans-abri. Voilà, je vais en rester là parce qu'on va trop dépasser le temps. Allez, Jérôme Solaire Groupe, avant leur concert demain aux Entractes Solidaires et en suivant le magazine juridique et social Défendez-vous sur Eau Radio.
Magazine juridique et social, Défendez-vous, présenté par Maître Paul Cesseau.
Bonjour, vous êtes bien sûr de radio pour votre magazine juridique et social du vendredi après-midi, vendredi midi, techniquement après-midi, de Défendez-vous. Et cette semaine, on va rebondir sur les déclarations depuis rétro-pédalé. De notre nouveau et peut-être très éphémère ministre de l'Intérieur, Monsieur Retailleau, relative à l'état de droit, selon lequel l'état de droit, ça n'est pas intangible ni sacré, déclaration auquel on ne peut que s'opposer, tant c'est une bêtise innommable, et d'une bêtise innommable, mais aussi particulièrement inquiétant de la part d'un ministre de l'Intérieur. On peut toujours rétropédaler, ça ne sert à rien, le mal est fait et dit, c'était le fond de la pensée qui a été donné a priori dans une interview dans un journal écrit, et que je sache, c'est relu et corrigé et raboté lorsqu'on l'estime nécessaire. Donc ça a été bien analysé auparavant. On peut parler de fausse polémique, ce n'est pas une fausse polémique. Alors en gros, c'est quoi l'état de droit? Bon, on va pas faire un cours de droit dont je serai au demeurant bien incapable. Et puisque ce n'est pas mon boulot, mais pour autant, l'état de droit en tant qu'avocat, je connais un petit peu et on se bat pour, et dans son cadre, mais au quotidien. Et c'est aussi pour cela que l'on existe. Étant précisé que l'état de droit, c'est intangible et c'est justement sacré. Il est reconnu par le traité de l'Union européenne, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et dans tous les pays qui nous ressemblent un tant soit peu. Et que je crois qu'on peut relire la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit et surtout à quoi ça sert. Puisqu'on a l'article 16 de cette déclaration qui nous dit que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Donc on voit donc que ce sont des éléments fondamentaux. Et l'article 7 qui donne finalement un exemple bien lisible, nous indique que nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. Au final, tout est là. L'état de droit, c'est la prééminence du droit sur le pouvoir politique et le respect par tous, que ce soit les dirigeants et ou le peuple, donc et le peuple, du droit et de la règle de droit qui s'impose donc à tous. Et donc on aura compris que c'est bien la différence entre nous et les dictatures, entre le droit et l'arbitraire. L'état de droit, c'est ce qui fait que on ne peut pas arrêter quelqu'un tant que la loi ne l'a pas autorisé, que l'on ne peut pas mettre en prison des hommes politiques juste parce qu'ils sont opposés aux idées du pouvoir en place, qu'on ne peut pas mettre en prison des journalistes juste parce qu'ils ne sont pas en accord avec le pouvoir. C'est pouvoir exprimer librement ses idées, c'est ne pas pouvoir être arrêté et puni pour quelque chose qui n'est pas une infraction, etc., etc., pour les exemples les plus évidents. C'est donc ce qui nous protège de l'arbitraire, et c'est l'opposé de la dictature, des déportations, génocides, etc. Tout le monde est égal devant la loi. Et on ne peut pas dire que lorsqu'on a dit une bêtise pareille, les personnes qui le relèvent agitent un faux débat. C'est cela qui est le faux débat, le fait de ne pas s'excuser plutôt que de contre-attaquer. Je crois que quelquefois quand on fait des bêtises, on peut commencer par s'excuser, c'est peut-être la moindre des choses. Après, Après, voilà. Et donc il faut toujours se méfier de ces déclarations qui ont été lues et relues très vraisemblablement, pas seulement parce que elles ont parce qu'elles sont fausses, bon, évidemment, mais parce que à partir du moment où elles sont dites, elles vont être redites, redites, etc. Et on va commencer à bourrer le crâne des gens avec ce genre. Avec ce genre de choses et avec ce genre de bêtises. Et du coup, c'est là qu'on invente de véritables faux débats. Par exemple, lorsqu'on martèle que la Terre est plate, il y en a toujours un certain nombre de personnes qui vont finir par le croire. Ou quand on veut essayer de faire croire que des migrants mangent les animaux de compagnie. Ça, je fais référence à la campagne américaine. Et pour rester dans ce cadre-là, la différence entre Donald Trump et l'état de droit, on la voit bien lorsque lui déclare, je l'ai lu dans le journal il y a deux jours, je crois, que pour établir l'ordre, il faudrait une journée de vraies bonnes violences policières permettrait de rétablir l'ordre. Voilà. On se croirait dans un film, dystopique américain. Alors il a rétropédalé, bon, lui aussi un petit peu, en disant que bon, finalement une seule heure ça suffirait. Alors c'est encore du grand n'importe quoi. Là on se situe vraiment dans une violation de l'état de droit, puisqu'on est sur l'arbitraire, puisque la police pourrait arbitrairement commettre, donc nous dit-on, des violences. Bon, c'est n'importe quoi, nous on s'en rend compte quand on le lit, il y en a toujours certains qui croient que c'est la solution, qui le croient, je veux dire, ce genre d'erreur est de nature à ouvrir des brèches, c'est peut-être le but aussi c'est chez ce genre de politiciens, et c'est pour ça qu'en parallèle, on a le principe de la séparation des pouvoirs, hein, législatif, exécutif, judiciaire, qui nous distingue aussi des dictatures dans lesquelles il y a une concentration des pouvoirs. L'idée étant là que c'est l'équilibre, que les pouvoirs s'équilibrent entre eux. Comme disait Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir. Bon, ensuite, on a aussi des contre-pouvoirs, la presse, etc. Mais tout ceci forme un équilibre précaire avec lequel il ne faut pas s'amuser. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, il y a des choses qui ne se négocient pas. Oui, il y a des choses qui sont sacrées dans nos sociétés pour éviter que des gens pourrissent en prison pour des choses qui ne sont pas prévues par la loi et simplement en fonction de l'humeur du dirigeant, comme on le voit dans un certain nombre de pays. Alors évidemment, ça peut poser la question aussi du contenu de la loi, puisqu'on voit que dans certains pays, des lois permettent, et en France auparavant, hein, des lois permettent ou ont permis des arrestations arbitraires. Ça pose la question de l'effectivité de l'état de droit. Et c'est là justement que on peut mettre en lumière avec dernier rapport du défenseur des droits, Clairédon, sur l'année 2023, et qui a été rendu public au printemps, qui pointe pour 2023 une année de particulière fragilisation des droits et de banalisation des atteintes aux droits et une érosion de l'état de droit, puisqu'on est sur la question de l'effectivité des droits et de l'état de droit. Elle note qu'il y a une grande difficulté, une majoration des difficultés d'accès aux services publics sur les territoires en raison de la dématérialisation déjà. Alors c'est vrai que ça, c'est quand même, bon, d'un certain côté c'est pratique, mais enfin c'est quand même aussi une plaie et pour quand même beaucoup de gens qui n'y connaissent rien en informatique. fermeture des guichets. C'est vrai que ça aussi, tout le monde l'a remarqué, c'est d'ailleurs dans le débat public des dernières élections. Elle note également le recul des droits fondamentaux des personnes étrangères. Mais bon, c'est toujours à ce propos-là que les reculs sont initiés selon ceux qu'on désigne étrangers et qui ont moins de droits et qui sont maltraités. Ce droit des étrangers, c'est quand même un peu le laboratoire des erreurs et des horreurs à venir. Alors on nous dit que le délai de traitement des dossiers qui est faramineux hein, même sur les renouvellements très simples de titre de séjour, le délai de traitement des dossiers a conduit à des ruptures de droits. En classique, ça se constate, mais ça concerne également la situation des droits de l'enfant, puisque de nombreux quant au droit d'éducation, de nombreux élèves ont connu un retard ou une absence d'affectation au lycée l'année dernière. Mais on a vu les chiffres cette année, mi-septembre, j'avais lu un article dessus, un nombre assez important de collégiens et de lycéens n'étaient pas encore affectés après la rentrée, 15 jours après la rentrée. Ça concerne également la protection de l'enfance, puisque des magistrats ont alerté le défenseur des droits sur des situations très préoccupantes des enfants qui nécessitent une protection du fait du manque de places en foyer, d'assistants familiaux ou de placements non exécutés ou de rupture dans le parcours des enfants. Il y a une remise en cause de l'autorité du juge, note-t-elle, mais bon, c'est vrai qu'on se souvient des déclarations habituelles de certains ministres, et une érosion de l'état de droit qui transparaît dans une exécution de plus en plus importante des décisions de justice, de la critique de l'autorité du juge, et alors aussi dans l'instrumentalisation, alors j'en avais parlé lors d'une émission, dans l'instrumentalisation du Conseil constitutionnel dans le cadre de la loi immigration, en lui demandant de sanctionner des dispositions législatives dont on savait parfaitement qu'elles étaient inconstitutionnelles. J'avais indiqué dans cette émission début février de cette année que à la base le législateur devait plutôt réfléchir faire des lois qui étaient constitutionnelles et les soumettre propres au Conseil constitutionnel plutôt que de faire des lois dont il savait qu'elles étaient inconstitutionnelles en s'en remettant ensuite au juge constitutionnel. Drôle de manière de procéder. Et ensuite, note également la contestation de la portée de certains droits, et notamment ceux qui garantissent des conditions d'existence dignes. Disant cela, vise plusieurs lois qui durcissent les conditions d'accès aux droits à l'aide sociale et les lois concernant le logement contre l'occupation illicite, ou la loi plein emploi. Voilà, tout ça pour dire que rien n'est parfait, évidemment, qu'il y a suffisamment de boulot sans qu'on ait besoin de venir nous casser les pieds en nous disant que nos fondamentaux doivent être également remis en cause. Voilà. Dans le même ordre d'idées, oui, d'une certaine manière, de l'importance du droit de l'Union européenne, d'abord, et de l'importance des juges et du pouvoir judiciaire. On est toujours en train de dire, même aux élections européennes, tout le monde se désintéresse de ces élections, et certains politiques en disant que l'Union européenne finalement ne nous intéresse pas. Il y a plusieurs types de discours, mais on devrait nous y intéresser un petit peu plus. Et il suffirait d'en parler pour que ça intéresse tout le monde et que l'on se fasse une idée bien différente du droit de l'Union européenne, de ce que les gens s'en font. Mais c'est vrai que c'est toujours facile de venir taper sur l'Europe plutôt que de se regarder soi-même en face. Donc certains vont dire que l'Europe ce n'est que du mal, d'autres disent que ce n'est pas assez, etc. etc. Quoi qu'il en soit, il y a des choses bien en Europe, et l'Europe nous apporte beaucoup de choses, et au-delà des lieux communs habituels, un petit exemple précis, puisque je réagis sur un arrêt de la Cour de cassation de juillet 2024, 11 juillet 2024, numéro 24-7000, pour ceux que ça pourrait intéresser, qui est relatif au pouvoir du juge de l'exécution en matière de clauses abusives. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord une clause abusive ? C'est défini par le Code de la consommation. On nous dit, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. C'est-à-dire, en gros, que, ben, c'est vrai que vous achetez un truc, vous avez un contrat pré-imprimé en tant qu'informateur, vous avez un contrat qui est pré-imprimé et vous n'avez pas beaucoup de possibilités de négocier. En général, vous n'en avez aucune de négocier un certain nombre de clauses par lequel le professionnel peut s'arroger un certain nombre de droits qui sont abusifs et contre lesquels on ne peut rien et qui créent un déséquilibre entre les droits et obligations des parties. Au final, le contrat doit être tout de même relativement équilibré. Et alors, la question s'est posée au fruit d'une longue évolution du droit de la consommation sur la possibilité évidemment que le juge puisse contrôler ces clauses abusives et c'est sous l'impulsion du droit de l'Union européenne puisque vous avez une directive du 5 avril 1993 sur les clauses abusives vous avez également une Cour de justice de l'Union européenne. Enfin, nous avons également une Cour de justice de l'Union européenne. Et la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, elle est là pour nous dire comment on doit appliquer le droit européen. Et donc elle est venue nous faire nous rendre toute une série d'arrêts de manière très très régulière sur les clauses abusives. Et au final, c'est grâce à elle qu'on arrive à un contrôle qui est particulièrement effectif. Puisque le droit français prévoyait que l'on doive contrôler les clauses abusives, que le juge doive contrôler les clauses abusives, mais seulement dans le cadre de ce qui était soumis par les parties. C'est-à-dire que, bah, comme d'habitude, le juge répond aux moyens qui lui sont présentés. On lui dit... le juge répond à ce qu'on lui demande. C'est-à-dire que si on ne lui demande pas à la base de constater qu'une clause abusive, eh bien, il ne va pas constater, il ne va pas le chercher tout seul. Alors c'est là justement que sous l'impulsion du juge européen, on est venu à dire que le juge doit spontanément rechercher l'existence des clauses abusives. Donc est-ce qu'il y a une clause abusive ? Est-ce qu'il n'y en a pas ? C'est lui qui doit le regarder, et ce dans toutes les procédures, même dans les procédures contradictoires, c'est-à-dire quand il y a un échange d'arguments entre les parties, mais également dans les procédures non contradictoires, c'est-à-dire par exemple dans les procédures d'injonction de payer. Y a-t-il une clause abusive dans le contrat, oui ou non, dont on lui demande l'exécution, et si oui, la clause doit être réputée non écrite. Une clause réputée non écrite, ça veut dire qu'on considère qu'elle n'existe pas. Et on doit ensuite appliquer le contrat reste valable, mais dans la mesure où la clause qui est abusive n'était pas non plus un élément essentiel, mais enfin le contrat reste valable sans la clause. Donc, c'est posé. Ensuite, la question de savoir, ah mais quel juge ? Parce qu'il y a en France et dans d'autres pays aussi un système qui fait que vous avez le juge qui va donner le titre exécutoire, c'est-à-dire dire qu'à partir du jugé, qu'à partir de tel contrat, telle partie doit être condamnée à l'exécuter et donc à faire telle chose, payer telle somme d'argent de manière générale, et vous avez ensuite un deuxième juge qui est celui qui va contrôler les mesures d'exécution, c'est-à-dire en France on l'appelle le juge d'exécution, le GEX. Ce GEX a des pouvoirs limités qui sont de ne pas rejuger au fond l'affaire et simplement de juger la mesure d'exécution. C'est-à-dire que si vous avez une saisie sur votre compte en banque, il va vérifier la régularité de la saisie, les montants pour lesquels c'est pratiqué par rapport au titre exécutoire qui est invoqué, l'existence du titre exécutoire, et ce genre de choses qui restent des pouvoirs assez limités. Et la Cour de justice de l'Union européenne est venue le dire, il y a notamment un arrêt du 4 mai 2023 dans lequel elle était saisie dans le cadre pour avis par une juridiction de Bucarest, me semble-t-il, en tout cas une juridiction roumaine. dans le cadre du juge de l'exécution, ou en tout cas de son homologue roumain, de savoir dans quel cadre justement le juge d'exécution pouvait relever l'existence d'une clause abusive. Et la CJUE, est venue dire que le juge d'exécution pouvait le faire également dans un arrêt du 18 janvier 2023, qui est, lui, cité dans la décision, enfin, de pas une décision, l'avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024. La CJUE nous dit que les dispositions de la directive de 93 s'opposent à une réglementation nationale prévoyant qu'une juridiction nationale ne peut procéder d'office à un examen du caractère éventuellement abusif des clauses figurant dans un contrat et en dirait les conséquences lorsqu'elle contrôle une procédure d'exécution forcée fondée sur une décision prononçant une injonction de payer revêtue de l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez déjà une décision qui est revêtue de la chose jugée, donc qui est définitive, qui peut être exécutée et qui fixe le montant d'une créance, et vous avez ensuite une contestation de l'exécution de cette décision qui est faite donc devant le juge de l'exécution, et la CJUE dit oui, si à ce stade on peut le faire, encore contrôler l'exécution, contrôler l'existence d'une clause abusive. Et donc, pour ce qui concerne le droit national, c'est ici le juge de l'exécution de Paris qui a saisi la Cour de cassation pour avis le 11 janvier 2024. La Cour de cassation a reçu le 7 février 2024 et elle a rendu son avis en juillet 2024. Les questions étaient celles-ci. Le juge de l'exécution peut-il déclarer réputée non écrite comme abusive la clause d'un contrat de consommation ayant donné lieu à la décision de justice fondant les poursuites? C'est exactement la question qui se pose. Et donc la question, la réponse étant oui ou non. Et dans l'affirmative, donc autre question, qu'est-ce qui se passe donc dans l'affirmative lorsque cette clause a pour objet la déchéance du terme, c'était l'exemple dans lequel le juge se trouvait, peut-il, le juge de l'exécution, annuler cette décision ou la dire privée de fondement juridique? Peut-il statuer au fond sur une demande en paiement? Et également, peut-il modifier la décision en justice en décidant qu'elle est en tout ou partie insusceptible d'exécution forcée, et dans ce cas, peut-il statuer au fond sur une demande en paiement? En gros, quels sont le juge d'exécution peut-il procéder encore au contrôle de l'existence d'une clause abusive? La Cour de justice de l'Union européenne nous dit oui, la Cour de cassation ne nous l'avait pas dit, la question lui est posée, elle y répond, si oui, que doit faire le juge de l'exécution. La Cour de cassation rappelle les différentes décisions de la CJUE principalement, et le droit national, elle nous répond que le juge d'exécution peut constater dans le dispositif de sa décision donc le caractère réputé non écrit d'une clause abusive. Et alors là, donc la réponse à la première question est donc oui, le juge d'exécution opère un contrôle, mais alors que se passe-t-il? Le juge de l'exécution, qui est réputé non écrit d'une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Donc ça, c'est dans le cadre des pouvoirs qui sont expressément conférés par la loi au juge de l'exécution, qui ne peut pas modifier la décision de justice. Enfin, qui ne peut pas annuler un titre exécutoire ni le modifier. Mais, quand même, on nous dit... Le titre exécutoire étant privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Bon, donc ça veut dire que il recalcule le montant de la créance, donc il répute non écrite une clause abusive, il recalcule le montant de la créance si le caractère abusif de cette clause a une incidence sur le montant la créance, et il en tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi. Lorsqu'il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la main levée de la mesure. C'est-à-dire qu'on ménage un peu la chèvre et le chou, mais enfin, au final, on aboutit à une situation dans laquelle le juge d'exécution, un, oui, peut regarder s'il y a une clause abusive, et deux, oui, s'il y en a une, la réputée non écrite, et en tirer toute conséquence sur le montant de la saisie, enfin, sur le montant de la mesure d'exécution qui lui est soumise, c'est-à-dire en gros sur le montant de la saisie qui a été effectuée. Donc voilà, un bon exemple, l'intérêt du droit de l'Union européenne en droit français, de l'intérêt de l'intervention des juges, et trois, de l'intérêt de l'état de droit dans une petite mesure, ou pas si petite que ça d'ailleurs, puisque ce qui est décidé là sur cet exemple précis va s'appliquer à l'ensemble des consommateurs, et donc on est sur un état de droit qui va protéger ici le consommateur par rapport à une personne qui est plus forte juridiquement. Donc voilà, allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt, au revoir.
Votre radio locale adhère à la FRANA. La Fédération des radios associatives de Nouvelle-Aquitaine accompagne ces radios dans le développement de leurs projets, les formations ou encore la défense de leurs intérêts communs. C'est aussi une plateforme d'échange d'informations locales. Vous souhaitez communiquer à l'échelle du territoire ? La FRANA peut vous proposer un plan de communication. Retrouvez la FRANA sur frana.fr, par mail à franaquitaine@gmail.com ou contactez votre radio.